Alors, que signifie la paix pour chacun et chacune d'entre nous? Si nous avions une définition à donner, qu'est-ce que nous dirions? Alors, j'ai regardé dans le Larousse quelle définition il me donnait. Je vais vous en donner quatre qui vont se décliner à différentes échelles. Tout d'abord, l'état de pays qui ne sont pas en guerre, ou bien un arrêt de la guerre entre les belligérants. Ensuite, une absence de lutte sociale. Et puis, l'absence de conflit dans un groupe de personnes. Et enfin, l'état de tranquillité, de repos chez quelqu'un, ainsi que le calme intérieur, la tranquillité d'âme. Et ce qui me frappe dans ces définitions, c'est que la paix est souvent définie comme une absence de conflit, une absence de trouble, et que ce soit à l'extérieur de nous ou à l'intérieur de nous. Alors bien sûr, quand on parle de paix, on pense tout de suite aux conflits armés, aux guerres dont on entend parler, sont proches ou lointaines, et on se rend compte depuis malheureusement cette guerre en Ukraine qui nous rend terriblement impuissants, on se rend compte qu'il y a des guerres qui nous concernent plus, de manière plus proche, mais une guerre reste une guerre. Mais c'est vrai que l'Ukraine, c'est quand même un pays d'Europe, et on est en grande compassion avec les Ukrainiens qui viennent se réfugier en Europe. Et parfois, quand on a des personnes dans nos paroisses qui viennent de là, eh bien on peut avoir des échos d'une manière différente, plus proche que ce qu'on a dans les médias. Mais il y a aussi des guerres qui n'en finissent pas. Je pense bien sûr à la Syrie, dont on n'entend finalement plus beaucoup parler. J'ai voulu rechercher des nouvelles récentes, j'ai eu du mal à trouver des nouvelles récentes. Apparemment, le régime détient à peu près 70% des territoires. Et il y a une guerre sous-jacente entre la Turquie et les Kurdes. Et puis il y a beaucoup de pays d'Afrique qui sont dans des guerres qui n'en finissent pas. Au Yémen, dont le conflit dure depuis 11 ans. L'Éthiopie, qui est en guerre contre le Tigré. Et puis des pays comme le Nigeria ou la Centrafrique qui vivent en grande instabilité, notamment à cause des djihadistes. Alors non, ce n'est pas la fin des guerres dans le monde. Et les civils sont particulièrement touchés. Alors, le 21 septembre dernier, s'est tenue la journée internationale de prière pour la paix. Et du coup, eh bien, le Conseil œcuménique des églises, qui rassemble la plupart des églises dans le monde, sauf l'Église catholique, et l'Église catholique est souvent présente malgré tout pour entendre ce qui se dit et ce qui se fait. Et du coup, le Conseil œcuménique des Églises invite toutes les églises et les croyants à prier pour la paix dans le monde, et en particulier pour la paix en Israël-Palestine, où on a entendu en effet pas mal de troubles revenir ces derniers mois. Et ce qui est impressionnant, nous l'avons entendu tout à l'heure, eh bien la paix pour Jérusalem est une exhortation du psalmiste. Demandez la paix pour Jérusalem. Est-ce que vous avez une idée d'il y a combien de temps le psalmiste me demandait cela? Ça fait longtemps, ça fait de toute façon plus de 2000 ans. Et si on considère que c'était pendant la déportation du peuple, ça pouvait être il y a 2500 ou 2700 ans. Donc depuis 2700 ans, Jérusalem n'est pas en paix. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Si on demande la paix, c'est que Jérusalem n'est pas en paix. Quand j'ai cherché des références sur la paix dans l'Ancien Testament, eh bien évidemment, c'est des contextes de guerre. Israël a été tout le temps en guerre avec ses voisins. Quand vous regardez une carte, Israël est complètement coincé entre le grand pays de l'Égypte en dessous, et à l'époque, c'était le grand pays d'Assyrie qui est devenu après Babylone. Il était coincé dans ces grandes puissances qui se faisait la guerre, donc qui passait régulièrement par là, qui empochait pas mal de choses en passant, et puis Miraculeusement, il est quand même resté debout, ce petit pays. C'était le petit pays choisi par Dieu, le peuple d'Israël. Et quand on lit les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, eh bien, on se rend compte qu'ils parlent à ce peuple déporté. C'est le plus grand malheur pour les Hébreux. Israël, il y avait un royaume au nord. Il a été déporté en 710 avant Jésus-Christ par les Assyriens. Et Juda, le royaume du sud avec Jérusalem, était déporté en 598 et 587 avant Jésus-Christ par les Babyloniens. Et quand le royaume du nord a été déporté, les prophètes au sud ont dit « Attention, attention !» Mais des prophètes ne voulaient pas y croire. Le texte d'Ésaïe nous dit « Les messagers de paix pleurent amèrement. » Les armées des deux royaumes ne faisaient pas le poids face aux ennemis. La guerre a été de courte durée. Et à l'époque, il y avait une stratégie d'affaiblissement des peuples. Ça ne s'est pas passé qu'avec Israël. C'était de déporter tout le peuple, tous les cadres, on dirait les cadres aujourd'hui, tous les cadres, les savants, les scientifiques, tous les prêtres, tout le monde partait du pays et de Jérusalem. Et cet exil aura duré entre 60 et 170 ans. Ils vont revenir à Jérusalem en 538. Et c'est là où il y aura un énorme changement dans leur théologie parce qu'ils vont apprendre à prier Dieu sans avoir le temple et les sacrifices. Donc c'est pour ça que c'est vraiment fondamental. Mais en tout cas, cela force à réfléchir à ce qu'est la paix. Est-ce qu'on est en paix quand on est déporté dans un pays étranger? Et puis, il faut se souvenir qu'à l'époque de Jésus, il y avait la paix. C'était la Pax Romana, c'était la paix romaine, mais c'était un pays occupé. Et Jésus vient parler de paix dans un pays occupé. Lui qu'on a appelé le prince de la paix, qui a été annoncé dans Ésaïe. Et dans sa vie en pays occupé, Jésus nous dit que les dangers ne viennent pas uniquement des guerres, ils viennent aussi d'ailleurs. On peut se poser la question d'ailleurs, pourquoi est-ce que l'être humain éprouve le besoin de faire des guerres? Alors il y a évidemment souvent une question de pouvoir, on ne veut pas perdre son pouvoir, et on utilise la force pour réussir à dominer l'autre. Un prêtre arabe israélien, mais oui, il y a beaucoup d'arabes israéliens en terre de Palestine. Émile Choufani, je ne sais pas si vous le connaissez, il avait constaté combien le sentiment de peur était fort chez les Juifs d'Israël. Et évidemment, ce sentiment est complètement exacerbé par les millénaires de persécution qu'ils ont vécues, jusqu'à la volonté des nazis d'exterminer tous les juifs à la Deuxième Guerre mondiale, drame qu'on appelle aussi la Shoah. Et aujourd'hui, depuis qu'ils ont leur propre pays, en Israël, eh bien, ils ont le défi de vivre démocratiquement, parce que c'est un État démocratique, mais tout en occupant le terrain des Palestiniens et en vivant dans la peur des attentats. Alors, vu de l'extérieur, nous avons du mal à séparer le côté religieux du politique. Et pourtant, il faut absolument s'y astreindre. Nous, les chrétiens, nous avons ce devoir d'essayer de toujours garder l'équilibre entre ce conflit entre les Juifs d'Israël et les Palestiniens arabes qui sont sur cette terre et tous les deux ont peur les uns des autres et veulent un bout de terre, c'est tellement complexe. Mais en tout cas, c'est à nous de garder l'équilibre parce que nous venons de là. Au catéchisme, hier, on a eu une très belle discussion avec les jeunes qui étaient là en disant « Mais est-ce que les Juifs, ils sont chrétiens ou ils ne sont pas chrétiens ?» Et il y avait une hésitation. En effet, nous les chrétiens, nous venons des Juifs. Mais les Juifs ne sont pas chrétiens. Et Jésus était Juif. Jésus n'était pas chrétien, mais nous adorons Jésus, nous croyons en Jésus et nous sommes chrétiens. Donc c'est très important de pouvoir démêler les choses. Notre prière pour la paix en Israël-Palestine ne sera jamais vaine. Mais quelque part, Vouloir dominer l'autre, n'est-ce pas un combat intérieur au départ, au tout départ de toutes les guerres? Est-ce que c'est pas parce que quelqu'un en lui-même n'est pas en paix intérieurement? En tout cas, il y a une définition de la paix sur laquelle on peut nous agir. C'est, je reprends cette définition, le calme intérieur et la tranquillité d'âme. Alors évidemment, cette paix-là ne s'obtient pas avec les armes, avec l'absence d'armes, pardon. Et Ésaïe, c'est intéressant, juste avant les messagers de paix qui sont tristes, il dit « La sécurité de tes jours, ce seront les richesses du salut, la sagesse, la connaissance et la crainte du Seigneur, tel sera ton trésor. » Et le prophète s'adresse aux gens qui sont en déportation. « La sécurité de tes jours, ce seront les richesses du salut. » Et du coup, le prophète rappelle que ce n'est pas tant la situation extérieure qui est importante, comme une absence de guerre, mais c'est notre personne tout entière qui est importante pour Dieu. Le salut, c'est une sécurité à rechercher. Et dans l'Ancien Testament, ce salut est donné par la connaissance de Dieu. C'est très révolutionnaire de dire que ce n'est plus du tout par les sacrifices, mais simplement par la foi en Dieu. Et nous allons retrouver cela avec la venue de Jésus. Ce salut est offert gratuitement à tous ceux qui croient. Jésus nous accueille tels que nous sommes, aussi agités que nous sommes, aussi imparfaits que nous sommes. Mais son amour dépasse largement nos limites humaines, parce qu'il a besoin de nous. Et il nous sauve de tout le mal que nous subissons et que nous pouvons aussi faire. S'attacher à Jésus-Christ, l'aimer, se savoir pardonner, peut nous permettre de recevoir cette paix, peut nous permettre d'avoir la conscience tranquille, cette tranquillité d'âme. Jésus nous dit « Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. » La paix du Christ ne vient pas du monde. Elle ne vient pas de l'absence de guerre. Elle peut m'être donnée à tout moment, en toutes circonstances. Alors bien sûr, il est plus facile pour moi de dire cette phrase dans un pays comme la France, qui est un pays en paix. Et c'est vrai, on peut se demander comment recevoir cette paix du Christ quand on a peur pour les proches, quand des deuils assombrissent la vie. Mais nous sommes aussi très souvent occupés par nos luttes intérieures. Nous ne sommes pas en paix parfois à cause de situations professionnelles difficiles, à cause de relations conflictuelles avec des proches. Recherchons donc ce qui convient à la paix et à l'édification mutuelle, nous dit l'apôtre Paul. C'est une recherche, c'est un travail, comme on l'a entendu tout à l'heure. La peur est mauvaise conseillère. Et c'est d'abord sur moi-même que je dois faire le travail. Chercher à comprendre les mécanismes de la peur, de la violence, et puis en m'intéressant à tous ceux qui travaillent aussi à la paix, qui ne sont pas forcément des chrétiens, des croyants. Je pense notamment aux associations autour de la non-violence, la communication non-violente. C'est une communication qui est extrêmement en cohérence avec l'Évangile. Et ça vaut vraiment la peine de lire ce que ces gens nous proposent. Parce que, bien sûr, quelle que soit ma situation, je peux me tourner vers Dieu et vers Jésus pour rechercher cette paix. Mais Dieu et Jésus, ils nous ont donné notre intelligence. Et c'est cette intelligence aussi qui me permet de me nourrir de tout ce qui existe dans notre monde pour chercher cette paix. Et on peut se dire que Jésus, il a subi des manipulations, des tensions, des violences, et sans doute aussi des questions qui l'ont empêché de dormir. De temps en temps, je me dis, quand on dit que Jésus va prier pendant la nuit, je me dis, peut-être qu'il avait des choses qui lui tournaient dans la tête et que ça l'empêchait de dormir. Et pourtant, dans cette situation-là, où il sait qu'il va être arrêté, il est capable de dire à ses disciples « Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. » De quel danger est-ce que je me trouble? Et si je reçois la paix de Jésus, comment j'arrive à m'apaiser face à ces dangers? Et en tout cas, ce que Jésus donne, c'est une paix qui dépasse largement une paix humaine. Nous le savons, quand nous recevons à l'intérieur de nous ce calme, et je vous le souhaite de le vivre, qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Il y a de temps en temps comme ça des moments où, tout d'un coup, on se retrouve dans une immense paix. Et puis nous pouvons ressentir cela aussi quand nous sentons la présence du Christ à nos côtés. Lui, il nous donne cette paix. Alors Seigneur, Prince de paix, donne-nous ta paix. Amen.